Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 24. Au menu, comment se rappeler des crans d'ouverture, comment bien nettoyer la lentille de son objectif, des photos fascinantes de la Corée du Nord et du Soleil, et le test du Pentax MX1. Au micro, comme à l'habitude, de Christian Jarry.
Bonjour.
François Blanchette.
Hello.
Et moi-même, Stéphane Vaillancourt.
Et presque déjà un quart de siècle, 25 dans pas long.
Oui, ça, wow. 24 épisodes, ça va vite.
Ça va vite.
Et bientôt, et en fait, ça fait déjà un an qu'on fait notre podcast. Oui, oui, oui. Alors, célébrons notre premier anniversaire.
Ah, ben,
félicitations.
Hey, incroyable.
Voilà, ça
c'est de l'eau.
Et merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous si fidèlement. Un an déjà qu'on fait ça, donc mais si vous
tout
avez
jeune,
manqué,
tout jeune.
Si vous avez manqué des épisodes, n'hésitez pas. Les premiers étaient plus longs, mais à plus faible fréquence, donc ça s'équivaut. C'est tout
ça
un
passe
exploit.
Vite, ça passe vite. J'avoue passe que vite. J'avais comme pas réalisé,
ben oui.
Mais c'est vrai.
Avril 2012, le premier épisode.
Ben oui.
Donc on est rendu là. Et donc, ben, on va enchaîner tout de suite. J'ai appris un truc tout simple. En fait, j'avais jamais réalisé à quel point c'est simple de calculer les crans d'ouverture.
Ah, ben, raconte-nous ça.
Parce que, bon, on essaie de les apprendre par cœur, F1, 1.4.
Je connais les premiers, mais honnêtement, plus loin que 8, je les connais pas.
Mais le truc pour les connaître, c'est tout simple, c'est qu'on se part deux séries de chiffres. La première part à 1.
Ouais.
Et là, on double. 2, 4, 8. 16, 32.
Okay. OK.
Et le deuxième, 1.4, 2.8, 5.6, 11, 22. Puis on peut aller 44, etc. C'est tout
simple
que ça.
OK, simple que ça.
Évidemment, on peut aller entre les deux, on peut aller à 1.8, etc. Mais les vrais crans, c'est 1. Donc, si on les mixe
ouais,
ensemble...
les crans original, là, ceux qui étaient sur les SLR du temps. Là.
C'est ça.
Donc,
C'est aussi simple que ça.
Ben, écoute, moi, je l'avais appris par cœur.
Ben, moi aussi, là, mais...
On essaie de l'apprendre par cœur, mais ce qu'il suffit de faire, c'est de doubler à partir de 1.4 pour ceux qu'on connaît pas, qui sont pas au début, qui sont pas des chiffres entiers.
Mm-hmm.
Donc, après, ben, à force de le dire, on va s'en rappeler parce qu'on connaît la logique derrière.
Ouais.
Et voilà.
Ben, merci beaucoup.
Je suis impressionné.
Évidemment, ben, je vais faire la démonstration dans les notes d'épisode qu'on vous invite à aller consulter. Et,
ça fait pratiquer les maths en plus, c'est génial.
Ben oui, c'est multiplication par deux.
Tellement complexe.
Bon, alors sur ces sages paroles, on va demander à François de nous expliquer comment bien nettoyer la lentille de son objectif.
Oui, parce que utiliser son gaminet ou son t-shirt ici au Québec pour nettoyer la lentille sur l'objectif, c'est pas tellement une bonne idée.
Non,
Non, parce que bon, la plupart du temps, c'est en coton.
Ou souvent, il y a de la poutine dessus.
Oui, c'est ça. C'est pas vraiment...
Peut-être les vôtres, mais pas moi.
Ben, y a des gens qui ont la mauvaise habitude d'utiliser... leur chandail de coton en se disant c'est du coton,
c'est doux,
non c'est abrasif,
ouais.
C'est pas tellement une bonne idée, il faut vraiment être mal pris pour faire ça, puis je le recommande à personne.
Mm-hmm.
Donc je me suis dit tiens, je vais parler un peu comment bien nettoyer sa lentille, parce que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger quand même sur des caméras disons portatives là, des compacts, des trucs comme ça avec des lentilles intégrées, c'est quand même une partie de la caméra qui coûte cher.
Mm-hmm.
Puis là, évidemment, je parle pas des SLR, des objectifs qu'on paye 500, 600, 700 jusqu'à 2, 3000 $
mm-hmm.
pour l'objectif. Il faut y faire attention. Donc, ce que ça nous prend? Ça nous prend de l'alcool. Ça nous prend une poire. Une poire, vous savez c'est quoi?
Oui, une poire à...
C'est on la mange,
flèche,
là, on la mange.
Une poire à air, c'est ça, oui.
un verre d'alcool, une poire pour manger.
Oui, puis,
puis
on flamme ça, puis c'est le fun.
Je vais te laisser le faire le premier coup. Après ça, je regarderai, OK?
une microfibre. En fait, une espèce de petite serviette microfibre qui ne va pas accumuler et redistribuer la poussière.
Comme celle utilisée pour les lunettes?
Exactement.
Oui. Okay. Ou pour
très
les
bon
écrans.
Exemple.
Oui.
Un pinceau aussi, une espèce de petit pinceau à poils. du même type que votre copine utilise pour se maquiller. C'est, je fais des farces, mais c'est pas mal ça. C'est à peu près le même type de poil.
Mais évitez d'utiliser celui de votre copine.
Oui, non.
Pour
non,
plusieurs raisons.
Ah, oui. Pour des raisons surtout de sanité dans votre couple. Ensuite, ça, pour ceux qui sont vraiment, mais vraiment crinqués, on pourrait utiliser des gants, le type de gants de chirurgie, pas de chirurgien, mais des gants de latex, gants de... mais sans poudre.
Ah, OK.
Ouais, ça, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment travailler dans un environnement super sécurisé. Là.
OK. Je pensais les gants que les numismates utilisent là, pour manipuler la monnaie. Là, pour pas,
peut-être que c'est ça. Moi, je parle de gants de latex, mais sans poudre.
OK.
Et aussi une bonne source lumineuse. Ça, c'est assez évident. C'est pour bien voir ce qu'on va faire.
Mais on avait déjà parlé aussi dans un épisode précédent des
des accessoires à avoir absolument, je pense.
Ouais.
Ouais.
Donc, un petit truc, une brosse à un bout et un petit bout plus rigide, là, en fait, pas trop, mais fait exprès pour nettoyer le verre.
Oui, un petit tissu, oui. Donc, la technique à utiliser, une fois qu'on a tout ça, puis là, c'est pour bien travailler, là, pas les ingrédients, mais disons les trucs qu'on aurait besoin pour nettoyer bien sa lentille, c'est ça. C'est pour bien le faire.
Mm-hmm.
Il faut commencer par souffler la poussière avec sa petite poire pour enlever les poussières sèches. Ensuite, on peut le faire aussi sur le capuchon de la lentille. Mmh. Parce qu'évidemment, on n'y pense pas. Hein?
À l'intérieur. Non, j'avoue,
mais s'il y a de la poussière sur le capuchon, quand on a tout nettoyé son objectif, on remet le capuchon. Ah! On a
c'est
comme
parce que c'est
fait.
Du plastique, il y a de la statique forcément.
Oui, puis il y a des petites parties à l'intérieur de ça. Il y a un petit système, là, pas de ressort, mais ça va se loger là-dedans. Fait que on vient souffler là-dedans avec le pinceau aussi pour brosser la poussière qui pourrait rester. Puis là, ben, on met ça de côté pour être sûr qu'il n'y a pas de poussière qui retombe dedans. Ensuite, l'objectif. S'il y a un filtre sur l'objectif, on commence par l'enlever. On pourra le nettoyer après ça. On va commencer par nettoyer directement sur la lentille de l'objectif.
Parce qu'étonnamment, même quand on a un filtre, et moi c'est toujours mon cas, il y a toujours de la poussière qui va s'infiltrer malgré tout entre l'objectif et le filtre.
C'est un des grands mystères.
Oui, hein? C'est vrai parce qu'on se dit c'est bien vissé, ça semble hermétique, mais non, il y a de la poussière qui va se glisser entre les deux.
Oui, c'est vraiment, là, ça s'est demandé s'il n'y a pas un vacuum, s'il n'y a pas une aspiration là, dans cet espace-là, là, une fois que c'est fermé.
C'est peut-être comme ça qu'ils font les magiciens, ils passent au travers de la vitre. Là. Ok, donc
peut-être. Bon, ben c'est à peu près la même technique pour le verre de l'objectif, c'est-à-dire qu'on va souffler à l'air pour commencer.
Mm-hmm.
Ensuite, on va y aller avec le pinceau, parce que des fois, il y a des poussières qui ne veulent pas décoller juste à l'air. Puis le mouvement qu'il faut faire avec le pinceau, c'est vraiment commencer au centre, puis dans un mouvement circulaire, aller vers les bords extérieurs.
Mm-hmm.
Il faut repousser les poussières vers l'extérieur. Toujours. C'est toujours une bonne façon de faire parce que juste brosser gauche-droite comme ça, on peinturait un mur, c'est pas bon, ça va se retrouver sur les côtés de l'objectif.
Mm-hmm.
Fait que, en faisant un mouvement circulaire, on éloigne toujours la poussière du centre, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, on y va avec l'alcool. On prend une microfibre, qu'on imbibe un petit peu d'alcool, encore une fois la même chose, on nettoie à partir du centre de l'objectif vers l'extérieur dans un mouvement circulaire.
Ne videz pas l'alcool sur votre objectif.
Ah non, mais ça, non, il faut vraiment juste l'imprégner, sa microfibre. Là.
Oh, oui.
Et jamais, jamais, jamais l'alcool directement sur l'objectif parce que c'est un liquide. Il faut contrôler le liquide quand même.
Comme ceux qui font ça sur leur écran d'ordinateur. Là.
Ah!
Je m'y ai vu tellement en plus.
Ah ouais, bon. C'est une très bonne idée pour ramasser le liquide dans le bas de l'écran.
Exact.
Ensuite, on y va avec le séchage, puis ça va être la même technique avec la microfibre sèche, ce coup-là, sans alcool, puis on fait encore le mouvement circulaire du centre vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on remet le capuchon, et voilà, on a un objectif propre.
Je dois confesser que le mien doit être vraiment sale, parce que non, c'est un excellent truc, sérieusement.
Oui.
Je vais m'y mettre rapidement.
On peut aussi faire la même chose du côté objectif où on branche, on connecte au capteur. Okay? Il faut être extrêmement, par exemple, précautionneux avec cette partie-là parce qu'elle, c'est
plus sensible.
Oui,
peu,
c'est plus
là.
Sensible.
Ça coûte cher à réparer.
Oui, c'est ça. C'est qu'il faut faire attention, tout simplement. Mais c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Puis là, ça s'applique pas juste sur les gros objectifs. Là. Les petits objectifs aussi, il faut les. Puis si ça se trouve, les compacts, tout ce qui a des petits objectifs de 2-3 cm de. Regardez ça pour le fun, là. Vous allez voir des traces de doigts.
Oui.
Là, c'est certain.
C'est clair.
Aucun doute.
C'est du gras qui va faire une distorsion dans votre image.
Ouais. Regardez votre téléphone cellulaire, là, touches, les juste sur le petit objectif qu'il y a là, c'est incroyable le nombre de gras et de choses qu'il y a là-dessus.
Ah ouais, mais c'est ça. Fait que
Donc, imaginez l'autre.
C'est ça qui va faire des fois que vous avez des photos floues, sans que vous n'allez pas trop savoir pourquoi, ben c'est ça. Fait que la lumière que je vous ai parlé, utilisez-la pour bien voir le vert. Pour les traces de gras, l'alcool s'en occupe. Les poussières, c'est le pinceau et le petit soufflet. Alors voilà.
Et François, tu voulais nous parler de photos de la Corée du Nord?
Ben en fait, comme vous le savez, en Corée du Nord, c'est un régime assez particulier sur la planète. C'est une contrée assez fermée.
Régime particulier, j'aime comment tu l'amènes. C'est...
Oui,
ouais,
ça n'a pas vraiment besoin de présentation.
Non.
C'est un pays qu'on ne sait pas trop vraiment ce qui se passe là, parce que toute information qui nous parvient est contrôlée par le gouvernement. Gouvernement, je suis gentil quand je dis ça. Donc, ils ont quand même été... ils ont quand même démontré un peu d'ouverture en laissant... les étrangers qui sont là pour travailler ou pour mission quelconque, par exemple photographe ou tout ça, ils leur ont laissé l'option de pouvoir, pas l'option je dirais, mais la possibilité de pouvoir se connecter à l'extérieur du monde par le réseau cellulaire du pays. Donc, ce qui a tout de suite amené certains photographes, par exemple de l'AFP, la Associated Press aussi, de Instagrammer des photos.
Instagrammer, c'est
oui,
bon.
De là-bas. Et ce qui est quand même spécial, c'est que là, on parle d'envoyer l'information en temps réel sur des réseaux qui vont être non filtrés. Là. L'émetteur, le producteur de la photo envoie ça sur le réseau puis il n'y a aucun filtre. Donc, s'il se retrouve dans un endroit où il y a quelque chose qui se passe de différent, ben on va le voir. Donc, ça nous permet de voir un peu des scènes de la vie là-bas en Corée du Nord.
Chose qui est particulièrement... qui n'est pas très, très vu depuis...
C'est ça. C'est pas que c'est exceptionnel, c'est qu'on les voit pas. Ils ont quand même réussi à prendre quelques clichés intéressants. T'sais, tu vois, les policiers, de la façon qu'ils sont habillés, un manteau bleu avec des cols de fourrure beige, ça ressemble à rien ce que j'ai vu ailleurs sur la Terre.
T'sais. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont pu photographier des policiers. Déjà, on aurait... penser que peut-être il aurait pas pu photographier des autorités.
Oui, bon, policier de la circulation, là, tu sais, parle.
Ah, OK.
Oui, bon, tu vois, une autre photo, c'est une photo de mariage. Bon, mais on voit un peu c'est quoi leur tradition, tu sais, avec les vêtements qu'ils portent. C'est nono, mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas.
Hey, c'est une petite ouverture, le plus... ça commence comme ça, puis on sait jamais où est-ce que ça peut finir après ça, là.
Et ça fait un beau coup de publicité pour Instagram.
Ouais, c'est ça.
Dieu sait qu'ils en ont besoin.
On peut voir, d'ailleurs, moi j'en trouve une très intéressante ici. C'est une photo dans ce qui semble être un centre commercial. En tout cas, on voit un escalier roulant, des gens qui montent d'escalier. Puis à côté, en display, il y a une espèce de il y a des fusées de guerre, des rockets,
des missiles. Des fusées,
en l'honneur de Kim Jong-il. Okay. Alors, puis il y a un paquet de roses, puis tout, mais il y a vraiment des missiles de guerre à côté.
Ça, c'est plus...
des roses.
Ouais, en tout cas.
Fait que bon, ça montre un peu comment...
société différente.
Puis Kim Jong-il était adoré pour mettre des missiles à côté de ses roses. Là, en tout cas. Donc voilà, c'est quelques
exemples. Ou des roses à côté des missiles.
C'était une seule affaire. Les missiles étaient là déjà.
Ouais.
Donc c'est intéressant le point de vue d'un photographe professionnel en Corée du Nord qui tweet ou qui Instagram ses photos. Alors ça s'est passé début mars, l'ouverture du pays un peu à l'Internet, disons.
C'est bien.
Mais attention, pas pour les résidents. Les résidents, ils ont encore plusieurs restrictions.
OK.
Ouais.
Comme d'habitude.
Bon, et tu avais aussi des photos assez spectaculaires, des photos du soleil.
Il y a un monsieur à Buffalo, aux États-Unis, qui est un astronome de jardin, on pourrait dire, parce que c'est un amateur. Il a décidé de s'équiper avec un bon télescope puis un adaptateur caméra. Mais là, il ne mentionne pas c'est quoi son équipement. Par contre, on peut voir les photos qu'il fait du soleil à partir de sa cour. Je vous dis, c'est assez impressionnant de voir les photos.
C'est le mot, c'est impressionnant.
Je crois qu'il est quand même très bien équipé, d'après moi.
Il s'en vante pas. Je pense qu'il veut garder un peu l'exclusivité de ses photos, puis c'est très bien.
Il n'y a pas de problème, mais il fait bien.
C'est parce que ça implique ses photos, premièrement. Je vais essayer de vous décrire ça, si vous n'avez pas l'occasion de voir ça sur notre site. C'est le soleil grossit des milliers de fois, évidemment, grâce aux des milliers, peut-être pas des milliers. Je fais pas d'astronomie, mais bon, quand on veut grossir un astre, on parle peut-être de 50-100 fois, je sais pas.
Oui, ça serait pas mal dans ce range-là.
Oui, puis il réussit à aller chercher des textures à la surface du soleil qu'on n'a jamais vu ailleurs, mm-hmm. avec une série de filtres puis de techniques de post-production.
Mm-hmm.
On dirait un tapis, c'est incroyable.
Une boule de coton.
Le soleil a l'air fibreux.
Ouais. Ah non, puis ça rend ça beau. Là. Aucune façon que j'ai vu ça avant, le soleil, de cette façon-là. C'est vraiment incroyable.
Il n'y a comme pas de feu. Ce qu'on pense au soleil, on pense au feu, aux affaires. Ouais.
On voit certaines explosions.
Il n'y en a pas beaucoup quand même. Là, je veux dire, on a l'impression de voir vraiment le sol. Là. C'est particulier.
Lui, il poste ça. Puis il nous montre ses réalisations qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ouais. Donc, allez voir ça.
Si la plupart du temps vous réussissez à vous faire une idée sans passer par les notes d'épisode, cette fois-ci.
Allez-y, vraiment, vraiment.
Oui.
Parfait. Bon, mais on va passer maintenant à notre dernier sujet. C'est le test du Pentax MX1.
Avant de commencer, je tiens juste à dire que cet appareil-là, je ne l'ai pas eu très, très longtemps. Je l'ai eu juste quelques jours. Ça m'a quand même donné l'occasion pareil de l'utiliser pas mal, là, mais il y a certaines choses, vous allez voir, j'ai pas tous les détails sur tout, mais je pense que ça me donne quand même une assez bonne idée pour être capable de bien juger malgré tout là, cet appareil-là. On parle d'un appareil qui est sorti au début de l'année, janvier. Je sais pas, par contre, j'ai essayé de trouver la disponibilité, il a pas l'air particulièrement disponible encore, fait que je sais pas trop, là, on parle d'environ 500$ US. C'est un compact, quoique, bon, compact. Encore une fois, on utilise ce mot-là. Lui, il n'est pas particulièrement compact, à mon opinion. Il est un peu long et un peu gros, mais...
Ben en fait, il est à peu près la taille du Sony Nexus, je crois, ça se peut-tu?
D'après moi, il est un peu plus large. Je sais pas, là. J'aurais l'impression... En tout cas, c'est peut-être l'impression à cause de sa grosseur. Puis ça, il est assez un peu lourd, mais moi, je n'haïs pas ça, personnellement. J'avoue que ça me donne l'impression d'avoir quelque chose dans les mains, là.
C'est un peu lourd. Mais avec un 7D...
Avec la batterie, là, disons, mais quand même, j'avoue que je préfère ça. Un objectif de 24-112 mm. F1.8 à 2.5.
Oh, c'est bon ça.
C'est excellent, je trouve, franchement.
À 105 mm?
Oui.
Ah oui, ouais, c'est très excellent. Bon.
À 112 mm.
112, ouais. C'est super bon.
Oh, ouais, c'est très bon. Un capteur de 12.76 mégapixels, 1 sur 1 septième, 1 sur, voyons, excusez-moi, 1 sur 1.7. Mm-hmm. Et même chose que l'autre que j'avais parlé l'autre jour, le LX7. Mm-hmm. D'ailleurs, beaucoup de monde pense que c'est fort probablement le même capteur qui a été changé en tout le monde. Là. Il n'y a pas des millions de capteurs.
C'est possible,
là.
Comme Nikon utilise des capteurs Sony.
C'est ça, exactement.
Les technologies, parfois, peuvent être réutilisées. Là. Puis quand c'est une bonne technologie aussi, pourquoi pas?
Exact.
Ça coupe des coûts de recherche et développement, puis tout le monde est gagnant.
On parle d'un ISO de 100 à 21800. Bon, c'est très théorique, à mon opinion, là. Par contre, 1600, c'est facilement utilisable. 3200, il y a un peu de grain, mais c'est bien. Mm-hmm. Tu sais, c'est... Pour ce qui est du mode rafale, bon, en tout cas, tu sais, il est quand même relativement assez récent, cet appareil-là. Il manque encore un peu d'informations. J'avoue que je ne l'ai pas trouvé, là. J'estime que ça doit être 3, 4, 5, quelque chose dans ce style-là, là. Pas trop sûr.
Ouais, parce que normalement, on se chronomètre pas à tester.
Non,
on
c'est aux ça, là. Puis de toute façon, comme je disais souvent, un mode rafale, c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment. Ben, pas sur des compacts. Fait que, en tout cas, tu sais, je sais pas trop par rapport à ça. Évidemment, bon, on a le mode RAW avec le retouche intégré. Un écran de 3 pouces, 920K. J'ai l'impression que ça commence à redevenir la norme. Heureusement, c'est une bonne chose d'ailleurs, là. Donc c'est ça, comme je vous disais, il y a quelques informations qui sont pas encore 100%, mais je vais quand même vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cet appareil-là. Premièrement, quand on sort de la boîte, bon, encore un autre avec le style rétro. Par contre, je dois dire, celui-là, à mon humble opinion, c'est moins réussi. Il est rétro, mais il est pas beau. Il est très carré, il est gros, il est rectangle, mais l'objectif est comme décentré. C'est un peu étrange. Je suis comme pas convaincu. Par contre, quand tu l'as dans les mains, ça marche. Mm-hmm. Ça marche très bien. Il y a un poids qui est considérable, mais je sais pas, ça donne l'impression d'une solidité. On le tient bien en main. Puis le fait que l'objectif est décentré du milieu, ça fait que ta main elle a une bonne poigne dessus. En tout cas, je l'ai trouvé très, très confortable à utiliser. Mm-hmm. Il y a un écran qui pivote, mais pas complètement long. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le mettre complètement droit, là, perpendiculaire
au
boîtier.
Okay.
Fait que ça peut être intéressant si vous désirez filmer des enfants ou des choses comme ça. Vous pouvez garder un œil sur l'image. Puis quand même, tu sais...
Le tenir plus bas
puis garder un œil sur l'image. Mm-hmm. Exactement. Il y a une excellente ergonomie des menus. Et tout ça. Et ce que j'ai trouvé le plus surprenant, encore une fois, en faisant un peu de recherche, moi j'aime ça parce que j'ai essayé de trouver un peu plus d'informations, tout ça. On disait que c'était les mêmes menus que les DSLR de Pentax.
Okay.
Ce qui est déjà aussi, je trouve, quelque chose qui est intéressant pour quelqu'un parce que c'est encore un appareil qui est plus dédié vers les enthousiastes, ceux qui sont un peu plus avancés en photographie. Mais remarque que les modes manuels, tout ça, sont simples et tout. N'importe qui peut l'utiliser, cet appareil-là. Puis. Par contre, j'ai vu d'autres mondes qui se plaignaient parce qu'ils ont acheté une autre compagnie qui s'appelle Rico, mm-hmm. puis qui aurait encore des meilleurs menus, mais ils n'ont pas été intégrés, mon garde. Oui, là, à un moment donné, là, je sais pas, parce que
Pentax Rico, c'est la même compagnie maintenant. Là.
Exact. Mais semble-t-il que les autres ont les très, très bons menus puis qu'ils sont très appréciés, mais ça n'a pas encore été, encore été rentré dans leur gamme pour le moment. J'ai beaucoup aimé l'objectif, encore une fois. On voit que c'est dans cette catégorie d'appareils-là, on mise beaucoup, beaucoup sur les objectifs avec beaucoup de luminosité et ça paraît. Mm-hmm. Vraiment. Puis ils font beaucoup d'efforts aussi pour avoir un bon degré de détail, une bonne netteté. Tout ça, c'est très surprenant. J'ai pris des photos en basse luminosité. Puis encore une fois, une performance qui est remarquable, franchement. Là, je suis impressionné des derniers appareils que j'ai essayés récemment. On voit que la qualité y est. Là. C'est sûr que le prix va avec aussi. Là. On ne s'en cachera pas. Là. 500-600$, c'est pas le même prix que 200-300. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y a quand même... On voit que la technologie avance. Là. Oui. Ça progresse pas mal. L'autofocus aussi m'a surpris. Assez rapide, assez facile à utiliser. Tout ça, franchement, une bonne ergonomie générale de l'appareil. Là. Simple. Okay. Les molettes sur le dessus aussi simplifient le mode qu'on veut prendre, etc. Manuel, automatique. C'est vraiment un appareil très convivial. Il n'y a pas rien qu'on essaie de faire avec, qu'on va vraiment chercher beaucoup dans les menus. J'ai tout trouvé rapidement, facilement. Dans les points négatifs, bon, comme je disais, regarde, c'est un détail, là, vraiment. Là. Le design, moi, il me plaît moyennement. Mm-hmm. Encore moins en noir. Lui, celui qu'on nous a livré est noir. Vraiment pas. Là. Je trippe pas. Là, t'sais, je comprends qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est pas une réussite. C'est de ce côté-là, là, je sais pas. Ça a l'air gros, ça a l'air blocky, ça a l'air...
Encore là, c'est une question de goût.
C'est totalement une question de goût. C'est pour ça que je dis que c'est très mineur. Moi, ça m'a moins plu. C'est... pas majeur du tout, du tout. J'ai vu, en tout cas, encore là, pas sûr, parce que c'est des choses sur Internet, on en prend, on en laisse, mais semble-t-il qu'il y aurait la tendance aussi, le métal, à changer de couleur.
OK.
Il parlait par rapport au fait que c'est comme les vieux anciens, de prendre une couleur un petit peu bronzée, dorée, tout ça, avec les doigts, tout ça. Aucune idée, garde, je l'ai vraiment pas testé assez longtemps. Mm-hmm. Aucune idée par rapport à ça. Pour le reste... j'ai pas grand-chose d'autre vraiment à dire, à part ça, là, je pense que de tous les appareils que j'ai testés récemment, c'est une des choses qui m'a le plus agacé. Quand on prend les photos en RAW, ils sont très longues à enregistrer.
Okay.
Au début, je me suis dit encore une fois, ça doit être ma carte de mémoire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou quoi que ce soit, mais j'avais pas le même problème avec les autres, fait que je me suis dit, chercher. Non, c'est vraiment là, on a un écran dit enregistrage des paramètres de données, de je sais pas trop quoi, en tout cas, puis ça prend 2-3 secondes avant que la photo soit enregistrée sur la carte de mémoire.
OK.
Je trouve ça long. Je trouve ça assez long. Puis ça a l'air d'être, pour ceux qui ont habitué avec les Pentax, ça a l'air d'être fréquent.
Mm-hmm.
Là, tu avais une carte de quelle vitesse?
Une 10.
Classe 10. Ouais. C'est bien bizarre.
C'est long. C'est long.
C'est une question de processeur.
C'est une question de processeur, une question de quelque chose qui se fait, qui enregistre mal, un mauvais processus, je sais pas trop. Ils disaient qu'ils espéraient eux autres aussi, c'est DP Review, que peut-être avec un micro-logiciel, ça serait réglé, tout ça, mais ça l'a été définitivement dans...
Parce qu'on parle de 12 mégapixels, donc c'est environ 12 mégaoctets du RAW. Normalement, c'est un ratio à peu près 1:1 là, avec des fichiers RAW. Mais ça devrait pas être si long que ça.
Non,
là, 12
je sais pas. J'avoue que moi aussi, ça m'a agacé. Là, parce que moi, je suis presque tout le temps en RAW. Je trouve que c'est plus facile à retravailler par après.
Mm-hmm.
Puis là, c'est ça. Vraiment, ça a été particulièrement agaçant là, à la longue. Pour le reste, vraiment, j'ai pas vraiment d'idée, par exemple, pour ce qui est de la pile.
Ben vois-tu, je suis devant la page.
Je sais. Tu m'as dit ça tantôt.
Ben oui, je suis devant la page de DP Review. Et on parle d'une autonomie d'environ 290 clichés. Donc
pas exceptionnel, mais c'est correct. Ça. Là, c'est pas, ouais.
On s'entend évidemment que si on tourne la vidéo, ça peut baisser drastiquement. Mais en photo, tout près de 300 photos, c'est raisonnable. Et je vois aussi que c'est compatible avec les cartes Hi-Fi. Donc, un petit détail intéressant.
Bref, en tout cas, mes quelques peu de temps que j'ai pu l'avoir dans mes mains, mm-hmm. C'est très positif. Encore une fois, c'est quand même un bon appareil. Comme je dis, vraiment, la solidité, là, c'est incroyable. Là. Ça a l'air d'un bloc de métal là, dans tes mains. Là. Mm-hmm. Ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, avoir ça dans les mains. Peut-être moins élégant, mais l'ergonomie et tout ça fait que c'est un appareil que tu as le goût de continuer à utiliser malgré tout.
Excellent, ben merci beaucoup.
Merci à toi.
Donc, bien, pour nous rejoindre, car ça conclut ce 24e épisode, pour nous rejoindre, tiens, je vais demander à François d'énumérer les réseaux sociaux et compagnie.
Vous pouvez nous rejoindre sur objectifnumérique.com pour notre blog ou sur onumérique sur Twitter.
Oui, Twitter, cette bête que François n'a pas encore apprivoisée.
Non, pas encore.
Mais d'ailleurs, les hashtags s'en viennent sur Facebook.
Oh. Non, je me sens violé.
Oh, rien de moins.
Bon, et sinon, il y a justement Facebook et Google+, vous cherchez onumérique pour nous retrouver. Alors, merci Christian.
Merci Stéphane.
Merci François.
Salut Stéphane, on se voit au 25e.
Eh oui!
25e déjà.
Merci chers auditeurs, à la prochaine.
À la prochaine.